Quand je repense à ces toutes premières conversations, il est difficile de nier un excès de confiance de ma part. J'étais convaincu que la logique de la réforme était si évidente que, même face à l'opposition la mieux organisée, je saurais rallier le soutien du peuple américain. D'autres initiatives d'envergure, telles la réforme de l'immigration ou la législation sur le changement climatique, seraient sans doute encore plus difficiles à faire passer au Congrès. Je pensais que décrocher une victoire sur le sujet qui, plus qu'aucun autre, affectait la vie quotidienne des gens, serait le meilleur moyen pour nous de créer une dynamique susceptible de porter le reste de mon programme législatif. Quant au risque de retombée politique qui inquiétait tant Axe et Ram, il était pratiquement certain de toute façon, à cause de la récession, que ma cote de popularité allait accuser le coup. C'était inévitable, et ce n'était pas en adoptant une attitude frileuse que nous pourrions échanger quoi que ce soit. Et quand bien même, laisser passer l'opportunité d'aider des millions de personnes simplement parce que cela risquait de mettre en péril mes chances de réélection, eh bien, c'était exactement le genre de calcul politicien à courte vue et égoïste auquel je m'étais juré de tourner le dos. L'intérêt que je portais aux questions de santé allait bien au-delà de la dimension politique. C'était pour moi une affaire personnelle, comme pour Teddy avant moi. Chaque fois que je rencontrais un parent qui avait toutes les peines du monde à trouver l'argent nécessaire pour soigner son enfant malade, je repensais à la nuit que Michel et moi avions passée aux urgences avec Sacha, alors âgé de 3 mois, à qui l'on avait diagnostiqué une méningite virale. La terreur et l'impuissance que nous avions ressenties quand les infirmières l'avaient emmené pour lui faire subir une ponction lombaire, et le moment où nous avions compris que nous n'aurions peut-être pas décelé l'infection à temps si nos filles n'avaient pas été régulièrement suivies par un pédiatre que nous pouvions appeler à tout moment du jour ou de la nuit. Chaque fois que j'avais rencontré, pendant la campagne, des agriculteurs ou des caissières de supermarché qui souffraient de douleurs chroniques au genou ou au dos parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller chez le médecin, je pensais à l'un de mes meilleurs amis, Bobby Titcombe, qui travaillait dans l'industrie de la pêche à Hawaï et qui ne consultait des professionnels de santé qu'en cas de blessure potentiellement fatale, comme la fois où il avait eu un poumon perforé par un harpon dans un accident de plongée, parce que les cotisations mensuelles d'une assurance maladie lui auraient coûté l'équivalent d'une semaine entière de pêche. Mais surtout, je pensais à ma mère. À la mi-juin, je me suis rendu à Green Bay, dans le Wisconsin, pour inaugurer une série de débats publics sur le système de santé que nous organiserions un peu partout dans le pays, dans l'espoir de sensibiliser les citoyens sur cette question et afin de les informer des diverses pistes de réforme possibles. Ce jour-là, la réunion a débuté par quelques mots de présentation de Laura Klitska. À 35 ans, atteinte d'un cancer du sein qui s'était métastasé dans les os, elle bénéficiait de la couverture maladie de son mari, mais, après avoir subi à plusieurs reprises divers protocoles de soins, chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, elle avait atteint le plafond de remboursement de leur assurance et il leur restait à s'acquitter d'une facture médicale s'élevant à $12 000. Malgré les objections de son mari, Peter, elle se demandait à présent si cela valait vraiment la peine de poursuivre le traitement. Je l'avais rejointe chez eux avant de nous rendre ensemble à la réunion. Assise dans le salon, elle affichait un petit sourire triste tandis que Peter s'efforçait de canaliser l'énergie des deux jeunes enfants qui jouaient par terre. « Je voudrais pouvoir passer autant de temps que possible avec eux, m'a dit Laura, mais je ne veux pas les quitter en leur laissant une montagne de dettes sur les bras. Ce serait de l'égoïsme. » Ses yeux se sont embués et je lui ai pris la main, en songeant aux derniers mois de ma mère. Toutes les fois où elle avait négligé de se rendre chez le médecin pour des visites de contrôle, grâce auxquelles sa maladie aurait pu être diagnostiquée à temps, parce qu'elle était alors entre deux contrats de consulting et n'avait donc aucune assurance. L'angoisse qui l'avait accompagnée jusque sur son lit d'hôpital, quand son assureur avait refusé de prendre en charge sa demande d'invalidité, au prétexte qu'elle n'avait pas fait état de ses antécédents, alors que sa maladie n'avait pas encore été diagnostiquée à l'époque où elle avait souscrit sa police d'assurance. Tous ces regrets tacites. Réformer le système de santé ne me ramènerait pas ma mère, ni n'atténuerait la culpabilité que j'éprouvais encore de ne pas avoir été à ses côtés lorsqu'elle avait rendu son dernier soupir. Et quand bien même je ferais passer une telle loi, il serait sans doute trop tard pour Laura Klitska et sa famille. Mais un jour, cela sauverait la vie de la mère de quelqu'un d'autre, ici ou là. Et c'était une raison suffisante pour se battre. Toute la question était de savoir si nous pouvions y arriver. Même s'il n'avait pas été facile de faire passer le Recovery Act, le principe qui sous-tendait cette législation destinée à stimuler la reprise était assez simple. Donner les moyens au gouvernement d'injecter des fonds le plus vite possible afin de maintenir l'économie à flot et de permettre aux gens de conserver leur emploi. Cette loi ne prélevait pas un seul dollar de la poche de qui que ce soit, n'obligeait pas les entreprises à changer de mode de fonctionnement, ni ne mettait un terme à d'anciens plans d'aide économique pour en financer de nouveaux. À court terme, personne n'était perdant. Pour ce qui était du système de santé, en revanche, un projet législatif d'envergure impliquait la refonte d'un sixième de l'économie américaine. Une telle loi entraînerait inévitablement des centaines de pages d'amendements et de régulations âprement disputées. Certains seraient inédits, d'autres consisteraient en de simples révisions de la législation antérieure, mais tous seraient chargés d'un enjeu colossal. Une simple clause inscrite dans le texte de loi pourrait à elle seule se traduire par plusieurs milliards de dollars de pertes ou de gains pour telle ou telle branche du secteur de la santé. Un seul chiffre corrigé, un zéro par-ci, une décimale par-là, et c'était un million de foyers américains qui bénéficiaient soudain d'une couverture maladie, ou pas. Partout dans le pays, certaines compagnies d'assurance comme Aetna ou United Healthcare étaient des employeurs de première importance, et les hôpitaux de proximité constituaient un véritable ancrage économique pour bon nombre de petites villes et de comtés. Les gens avaient de bonnes raisons, des raisons qui avaient trait à des questions de vie ou de mort, de s'inquiéter de la façon dont le moindre changement risquait de les affecter. Il y avait aussi la question du financement de la loi. Pour qu'un plus grand nombre d'Américains bénéficient d'une couverture maladie, avais-je avancé, il était inutile d'allouer plus d'argent au secteur de la santé. Il fallait simplement utiliser de manière plus judicieuse l'argent qui était déjà là. En théorie, c'était vrai. Mais le gaspillage et l'inefficacité de l'un faisaient le profit ou l'avantage d'un autre. Les dépenses liées à la couverture maladie apparaîtraient sur les livres de compte du gouvernement fédéral bien avant les économies que permettrait de réaliser la réforme, et contrairement aux géants de l'industrie pharmaceutique, dont les actionnaires veillaient à ce qu'aucun changement ne leur coûte un seul centime, la plupart des bénéficiaires potentiels d'une telle réforme, la serveuse, le petit exploitant agricole, l'entrepreneur indépendant ou le malade du cancer en rémission, ne pouvaient pas s'appuyer sur des escouades de lobbyistes expérimentés et grassement payés pour défendre leurs intérêts dans les couloirs du Congrès. Autrement dit, les implications politiques et la substance même du système de santé représentaient un véritable casse-tête. J'allais devoir expliquer aux Américains, y compris ceux qui avaient déjà une bonne assurance, le pourquoi et le comment de cette réforme. C'est la raison pour laquelle je souhaitais que nous procédions de la manière la plus ouverte et transparente possible pour mettre en œuvre la législation nécessaire. Tout le monde aura voix au chapitre, avais-je promis aux électeurs durant la campagne. Les négociations ne se dérouleront pas derrière des portes closes, mais en présence de toutes les parties concernées, et elles seront retransmises sur la chaîne des débats parlementaires C-SPAN, afin que le peuple américain puisse juger par lui-même des choix qui se présentent à nous. Quand j'en ai discuté plus tard avec Ram, j'ai eu l'impression qu'il aurait souhaité à cet instant que je ne sois pas le président, pour pouvoir m'expliquer sans détour à quel point mon plan était idiot. Si nous voulions vraiment faire voter une telle loi, m'a-t-il prévenu, il faudrait en passer par des dizaines et des dizaines d'accords et de compromis, et ce processus n'aurait rien d'un aimable séminaire civique. Quand on fait de la saucisse, c'est pas joli à voir, monsieur le président, m'a-t-il dit. Et ce que vous demandez là, c'est vraiment de faire une énorme quantité de saucisse. Ram et moi étions toutefois d'accord sur un point. Des mois de travail nous attendaient, durant lesquels il nous faudrait évaluer minutieusement le coût et les conséquences de la moindre disposition du projet de loi, coordonner tous les efforts nécessaires au sein des diverses agences fédérales et des deux chambres du Congrès, tout en cherchant le soutien des principaux acteurs du secteur de la santé, des fournisseurs de soins aux administrations hospitalières, en passant par les compagnies d'assurance et l'industrie pharmaceutique. Pour y parvenir, il fallait que nous puissions nous appuyer sur une équipe de haut vol. Heureusement, nous avons pu recruter un formidable trio de femmes pour nous aider à lancer ce grand projet. La démocrate Kathleen Sebelius, deux fois élue au poste de gouverneur dans un état du Kansas traditionnellement acquis à la cause républicaine, nous a rejoint comme secrétaire à la santé et aux services sociaux, HHS. Ancienne commissaire d'État aux assurances, elle connaissait parfaitement les rouages tant politiques qu'économiques du domaine de la santé, et ses talents politiques, son intelligence, son humour, son enthousiasme, sa combativité et son aisance dans les médias, faisaient d'elle la candidate idéale pour défendre la réforme sur les plateaux de télévision ou sur l'estrade des débats publics partout dans le pays, où elle saurait expliquer aux gens notre projet. Jeanne Lambrou, professeure à l'Université du Texas et experte des programmes Medicare et Medicaid, est devenue notre directrice du bureau de la réforme du système de santé au sein du HHS. En somme, notre conseillère politique en chef. Grande, sobre et souvent indifférente aux contraintes politiques, Elle connaissait sur le bout des doigts toutes les propositions afférentes au domaine de la santé, jusque dans leurs moindres détails factuels et leurs moindres nuances. Et on pouvait compter sur elle pour nous remettre sur le droit chemin si d'aventure nous nous écartions trop de notre objectif pour céder aux compromis politiques au nom de l'efficacité. Mais à mesure que notre campagne commençait à prendre forme, c'est sur Nancy Ann de Parel que j'allais le plus m'appuyer. Avocate, ancienne directrice des programmes de santé du Tennessee, puis administratrice du régime Medicare sous l'administration Clinton, Nancy Ann faisait montre du professionnalisme irréprochable de quelqu'un d'habitué à travailler dur pour voir ses efforts couronnés de succès. Dans quelle mesure cette détermination puisait sa source dans les expériences qu'elle avait dû traverser en tant que jeune femme sino-américaine ayant grandi dans une petite ville du Tennessee, je n'aurais su le dire. Nancy Ann ne parlait pas beaucoup d'elle-même, pas avec moi en tout cas. Je sais en revanche qu'à 17 ans, elle avait vu sa mère emportée par un cancer du poumon, et cela avait peut-être joué dans sa décision d'abandonner un poste lucratif dans un fonds de placement privé pour des responsabilités qui l'obligeraient à passer encore plus de temps loin de son cher mari et de leurs deux jeunes fils. Je n'étais pas le seul pour qui la réforme du système de santé revêtait une dimension personnelle. Avec Ram, Phil Schiliro et le directeur de cabinet adjoint Jim Messina, l'ancien bras droit de Plouf pendant la campagne et l'un de nos agents politiques les plus avisés, notre équipe a commencé à tracer les grandes lignes d'une possible stratégie législative. Sur la foi de ce que nous avions vécu avec le Recovery Act, nous ne doutions pas que Mitch McConnell ferait tout pour torpiller nos efforts et que nos chances d'obtenir des voix républicaines au Sénat sur un sujet aussi crucial et controversé que le système de santé étaient très minces. Ce qui pouvait nous donner confiance, en revanche, c'est qu'au lieu des 58 sénateurs acquis au groupe démocrate au moment du vote sur le plan de relance économique, nous pourrions compter sur 60 d'entre eux quand le projet de loi sur la santé serait présenté. Al Franken avait enfin été officiellement élu dans le Minnesota après un recompte des voix, et Arlene Specter avait décidé de rejoindre les rangs démocrates après avoir été radié du GOP, comme Charlie Crist, parce qu'il avait soutenu le Recovery Act. Néanmoins, cet effectif, qui nous mettait de facto à l'abri d'une manœuvre d'obstruction, restait fragile, car il fallait compter avec un Ted Kennedy condamné par la maladie, ainsi qu'avec un autre sénateur souffrant, Robert Byrd, élu de la Virginie-Occidentale, sans parler des membres de l'aile conservatrice du parti, tels que le sénateur du Nebraska Ben Nelson, ancien cadre dirigeant dans une compagnie d'assurance, qui pouvait faire volte-face à tout moment. Non seulement nous ne disposions donc d'aucune marge d'erreur possible, mais je savais en outre que faire voter une réforme aussi monumentale que celle du système de santé sur la seule base d'un vote partisan rendrait cette loi plus vulnérable d'un point de vue politique dans les années à venir. Par conséquent, nous pensions qu'il était raisonnable de formuler notre proposition législative de sorte qu'elle ait au moins une chance de nous valoir le soutien d'une poignée de républicains. Heureusement, nous avions un modèle sur lequel nous appuyer, celui de l'alliance qu'avait formée, ironie de l'histoire, Ted Kennedy et l'ancien gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, l'un des adversaires de John McCain aux primaires républicaines lors de la dernière élection présidentielle. Confronté quelques années plus tôt à des déficits budgétaires et à la perspective de perdre les financements du programme Medicaid, Romney était devenu obnubilé par l'idée de trouver un moyen de fournir une couverture maladie digne de ce nom à un plus grand nombre de résidents du Massachusetts. Ce qui aurait pour effet de réduire les dépenses de l'État en matière de soins d'urgence pour les personnes non assurées et, en théorie, d'améliorer la santé de la population de manière générale. Son équipe et lui avaient opté pour une approche à plusieurs niveaux, en vertu de laquelle chaque personne serait tenue de souscrire une assurance, une obligation individuelle, de même que chaque conducteur était tenu d'assurer son véhicule. Les salariés qui ne pouvaient pas souscrire une assurance santé auprès de leur employeur ou par leurs propres moyens, et qui n'étaient pas éligibles au régime Medicare ou Medicaid, pourraient bénéficier d'une aide du gouvernement. Le montant de ces subventions serait fixé selon un barème dégressif indexé sur les revenus individuels et un marché en ligne centralisé, une bourse, serait institué afin que chaque consommateur puisse trouver le meilleur contrat d'assurance possible. Quant aux compagnies d'assurance elles-mêmes, elles n'auraient plus le droit de retoquer leurs clients en raison d'éventuels antécédents médicaux. Ces deux idées, l'obligation de souscription à titre individuel et la protection des personnes ayant des antécédents, allaient de pair. Face au gigantesque vivier de nouveaux clients bénéficiant d'une aide financière publique, les assureurs n'avaient plus d'excuses pour trier leurs clients sur le volet et n'accorder de couverture qu'aux personnes jeunes et en bonne santé au nom de la protection de leurs profits. Inversement, grâce à l'obligation de souscription individuelle, les gens ne pouvaient plus tricher en attendant de tomber malade pour prendre une assurance. Quand il avait exposé son plan aux médias, Romney avait qualifié l'obligation de souscription d'idée conservatrice par excellence, parce qu'elle reposait sur la responsabilité individuelle. Sans surprise, les députés de la législature du Massachusetts, à majorité démocrate, n'avaient guère été convaincus dans un premier temps par le projet de loi de Romney, et pas seulement parce qu'il émanait d'un républicain. Aux yeux de nombreuses personnalités politiques de gauche, la nécessité de substituer à l'assurance privée et au système de santé à but lucratif un régime unique et obligatoire de remboursement des soins, comme celui qui était en vigueur au Canada, était un article de foi. Si nous étions partis de zéro, j'aurais été d'accord avec eux. Comme le prouvaient bon nombre d'exemples à l'étranger, un régime unique à l'échelle nationale, un Medicare pour tous en somme, était un moyen efficace et rentable de fournir à la population un système d'assurance maladie de qualité. Mais ni le Massachusetts ni les États-Unis ne partaient de zéro. Teddy, qui malgré sa réputation de progressiste candide avait toujours été d'un grand pragmatisme, était parfaitement conscient qu'essayer de démanteler le système existant pour le remplacer par un système entièrement nouveau était une idée non seulement vouée à l'échec du point de vue politique, mais également susceptible de provoquer un véritable désastre économique. Il s'était donc rallié avec enthousiasme à la proposition de Mitt Romney et avait aidé le gouverneur à rassembler les voix nécessaires au sein du groupe démocrate de la législature du Massachusetts pour que ce projet de loi aboutisse. Le Romney Care, ainsi qu'avait été surnommée cette disposition législative, était en vigueur depuis maintenant 2 ans, et c'était à l'évidence un franc succès. Le nombre de personnes ne bénéficiant pas d'une assurance maladie était tombé à un peu moins de 4% de la population du Massachusetts, le taux le plus bas de tout le pays. Teddy s'en était inspiré pour poser les bases du projet de loi sur lequel il avait lui-même commencé à travailler, plusieurs mois avant l'élection présidentielle, en tant que président de la commission sénatoriale sur la santé et l'éducation. Et même si Plouffe et Axe m'avaient persuadé de ne pas apporter mon soutien officiel à l'approche adoptée par le Massachusetts durant la campagne, l'idée d'obliger les gens à souscrire une assurance était très mal reçue par les électeurs, et j'avais donc orienté mon discours plutôt sur la réduction des coûts, j'étais à présent convaincu, comme la plupart des défenseurs de la réforme, que le modèle de Romney représentait notre meilleure chance d'atteindre notre objectif de couverture universelle. Des désaccords subsistaient quant à la forme spécifique que pourrait prendre un plan similaire à celui du Massachusetts à l'échelle nationale, et tandis que mon équipe et moi-même commencions à définir notre stratégie, bon nombre de conseillers nous poussaient à résoudre la question au plus vite en soumettant au Congrès un projet de loi émanant directement de la Maison-Blanche. Mais nous avons décidé de procéder autrement. S'il y avait une leçon à retenir de l'échec des Clinton, c'est qu'il était indispensable d'impliquer dans le processus certaines personnalités incontournables du Parti démocrate, afin qu'elles aient l'impression de prendre pleinement part à cette initiative. Sans cet effort de coordination, nous savions que notre projet de loi se ferait tailler en pièces. À la Chambre des représentants, cela signifiait qu'il faudrait obtenir le soutien du député de la Californie, Henry Waxman, un homme aussi rusé que pugnace. Côté Sénat, les choses se présentaient différemment. En l'absence de Teddy, convalescent, tout dépendait de Max Baucus, représentant du Montana et de l'aile conservatrice du Parti démocrate, qui présidait la puissante commission financière. Sur les questions d'imposition, auxquelles la commission consacrait l'essentiel de son temps, Baucus s'alignait souvent sur les positions des lobbies d'affaires, ce qui m'inspirait une certaine inquiétude, et en 3 décennies au Sénat, il n'avait été à l'initiative d'aucun projet de loi d'envergure. Toutefois, son engagement sur la réforme du système de santé semblait sincère. Il avait organisé un sommet législatif sur la question au mois de juin précédent et avait travaillé pendant plusieurs mois avec Ted Kennedy et son équipe à une première ébauche du projet. Baucus était par ailleurs très proche du sénateur de l'Iowa, Chuck Grassley, le président du groupe républicain au sein de la commission des finances, et il pensait avoir de bonnes chances d'obtenir le soutien de ce dernier. Ram et Phil Schiliro étaient sceptiques sur ce point. Après tout, nous avions déjà fait les frais de ce genre d'alliance hasardeuse au moment du débat sur le Recovery Act. Mais nous avons décidé qu'il valait mieux laisser Baucus procéder comme il l'entendait et voir où cela mènerait. Il avait déjà exposé certaines de ses idées dans la presse et formerait bientôt un groupe de travail sur la réforme auquel participerait Grassley ainsi que 2 autres républicains. Lors d'une réunion dans le bureau ovale, cependant, je lui ai recommandé de bien veiller à ne pas se laisser mener en bateau par Grassley. « Faites-moi confiance, monsieur le président », a dit Baucus. « J'ai déjà mis les choses au point avec Chuck. Avant le mois de juillet, l'affaire sera dans le sac. »